Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu local,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui.
Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Bartas 107 FM et sur radiobartas.net. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à la vie des autres, alors non pas à celle de vos voisins, pas non plus au film allemand sorti en 2006 qui raconte l'histoire d'un agent de la RDA qui s'immisce dans l'intimité du couple qu'il est censé surveiller. Très beau film d'ailleurs que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Mais non, la vie des autres dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le titre d'une pièce de théâtre, dernière création de la compagnie La Joie Errante, implantée en Lozère, et que vous pourrez découvrir dès cette semaine, le 4 novembre au Quartz à Saint-Chély-d'Apché et le 7 novembre à la Jeunette Verte à Florac. La vie des autres a été écrite par l'auteur François Perrache et mise en scène par Thomas Pouget, et c'est lui qui nous en parle. Bonjour Thomas Pouget.
Bonjour.
Alors vous allez jouer ce 4 novembre la dernière création de votre compagnie, et ce sera la première au Quartz à Saint-Chély-d'Apché. Est-ce que vous êtes prêt?
Ah oui, ça attaque dur. Après, je ne sais pas, c'est toujours délicat. On dit que le temps, c'est un gaz incompressible. Il prend toute la place qu'on lui donne. Si on avait 2 semaines de plus de répétition, ça serait super. Mais en l'état, je pense qu'il y a tout pour que le travail soit à la fois présentable, qui réponde aux attentes que moi j'avais fixées. Donc oui, je dirais que même pour faire court, oui. On est le plus près possible.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette pièce présentable? Qu'est-ce que ça raconte, cette vie des autres?
En fait, la vie des autres, c'est venu d'une réflexion avec François Perrache, qui est l'auteur de ce spectacle-là, avec qui on a l'habitude de travailler maintenant depuis plus de 10 ans. Donc, on avait fait Vacarme, le spectacle sur le milieu paysan qui a beaucoup tourné. On en est à plus de 120 dates. Et après, on voulait, en termes de thématique, élargir en cercle concentrique. Et on se disait que ce qui venait après les campagnes, c'est ce qu'on appelle le périurbain, ou le périrural, suivant comment est-ce qu'on veut définir la chose. Et il se trouve que ces espaces-là de périurbains, par le biais des lotissements pavillonnaires, racontent toute une vie de ce qui peut se passer pour des classes moyennes, de ce qui peut se passer sur la question de l'habitat, pour la question de comment est-ce qu'on arrive à vivre seul ensemble. Et cette pièce-là particulièrement raconte l'histoire de Julie et Lucas, qui sont 2 enfants qui ont grandi dans un lotissement pavillonnaire. Le père est placé en EHPAD, la mère vient de mourir il n'y a pas très longtemps, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce lotissement pavillonnaire-là. Avec des rapports aux voisins, qui sont pas trop loin, mais comme dans n'importe quel lotissement pavillonnaire. Et donc c'est l'occasion d'aborder, un ensemble de thématiques très universelles sur comment, encore une fois, on arrive à vivre ensemble, sur la question de l'héritage, sur la question des familles, sur la question de ce qui peut se passer comme fait divers dans les lotissements pavillonnaires, etc., etc.
Il y a un auteur derrière le texte de cette pièce, vous l'avez cité, c'est François Perrache, mais vous avez aussi une méthode particulière de travail, parce que vous fondez l'écriture sur un travail quasi documentaire. Vous menez beaucoup d'entretiens avec des gens concernés par les thématiques de vos pièces. Alors c'était le cas pour votre précédente création dont vous avez parlé, Vacarme, où vous aviez collecté les témoignages de professionnels du secteur agricole. Et pour cette pièce-là, vous êtes allé à la rencontre de résidents de lotissement et aussi de sociologues, d'urbanistes qui travaillent sur cette thématique du périurbain. Expliquez-nous comment elle se déroule, cette phase de travail documentaire.
C'est vrai que c'est, je pense, assez particulier. En fait, cette chose-là de récolter les témoignages, interviews, anecdotes, nous permet à la fois, je pense, d'assurer une certaine forme de légitimité des propos qu'on va relater, et en tout cas des histoires qu'on va raconter. Ce qui est toujours très troublant, c'est que les gens qui sont interrogés commencent très régulièrement par « je ne sais pas ce que je vais vous raconter d'intéressant ». Souvent, c'est une heure et demie de quasi-monologue où ils nous racontent leur vie, et ça finit en disant « je ne sais pas si tout ça va être bien utile ». Et en fait, il se trouve que systématiquement, mais ça a pu être le cas sur Vacarme, mais c'est le cas sur la vie des autres, c'est systématiquement passionnant parce qu'on a un condensé d'une vie de 1h30 qui permet évidemment pas d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais ça nous permet d'avoir des grandes thématiques qui ressortent. Donc une fois que toutes ces thématiques-là sont ressorties sur tous les témoignages, interviews, anecdotes, ça nous permet, nous, de dégager des grandes problématiques, d'avoir des grands thèmes qu'ensuite on peut arriver à réintroduire dans les récits. Et après, ce que je trouve, moi, assez fabuleux, c'est que c'est quasiment un c'est comme un puzzle. On arrive à avancer les pièces les unes après les autres pour arriver à avoir une idée complète de ce milieu-là ou de ces professions-là ou en tout cas de ces habitats-là. Mais c'est vraiment un long travail d'enquête appuyé aussi par des sociologues, des géographes qui ont un avis plus scientifique sur la question.
Et est-ce que vous les enregistrez, ces personnes-là? Est-ce que ensuite les comédiens, par exemple, vont entendre leur voix et travailler aussi leur jeu pour essayer de coller à leur façon de parler, de s'exprimer? Est-ce que les personnes que vous interrogez deviennent des personnages à part entière ou c'est surtout, ça reste des sources d'inspiration?
C'est souvent des sources, alors c'est, j'allais dire même uniquement des sources d'inspiration. Les comédiens et les comédiennes eux-mêmes d'ailleurs sont interrogés sur les thématiques qu'on a dégagées, les rencontres qu'on a pu faire. Donc ça vient nourrir en supplément tout ce qu'on a déjà pu entendre. Après, eux peuvent en prendre connaissance. On enregistre, c'est vrai. Il y en a qui demandent à ne pas être enregistrés parce que je pense qu'il y a aussi des fois de la pudeur derrière tout ça et qu'ils veulent pas laisser une trace de ce qu'ils ont pu dire ou pas. Mais c'est minime. Et après, l'idée, c'est vraiment pour nous de pas faire justement du théâtre documentaire, mais de bien raconter une vraie histoire inventée à partir de ces témoignages-là. Donc avec François, quand on travaille à la conception des projets ensemble, on pique parfois une réplique qu'on a entendue pour la donner à un autre personnage qui, a priori, ce serait pas tout à fait sa vie. Et après, les comédiens et les comédiennes font leur tambouille directement avec ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils doivent jouer, les situations, évidemment les enjeux. Et puis après aussi de leur personnalité, et c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de les interroger, parce qu'ils arrivent pour certains et certaines, en nous confiant des choses, à les rejouer au plateau, et je crois que ça sonne plus vrai par moment, oui.
Et j'ai lu dans le dossier de presse qui présente la pièce, donc je cite, « Le lotissement est un non-lieu où il ne se passe rien, une antithèse théorique au théâtre. » Et les termes « non-lieu » et « rien », ils sont entre guillemets. Alors du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est vous qui les qualifiez ainsi? Ou est-ce que vous reflétez avec ces termes-là l'imaginaire collectif? Ou bien c'est les personnes interrogées qui en parlent de cette façon?
Alors, ça nous a beaucoup été relaté comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues de la part des gens qu'on a interrogés. Et c'est souvent dans l'imaginaire collectif des non-lieux où il ne se passe rien. Mais je ne connais aucun endroit, en tout cas sur cette planète, où il ne se passe rien, où il y a des non-lieux. Il y a systématiquement des histoires d'hommes et de femmes qui s'y déroulent. C'est des parcours de vie, c'est des trajectoires. En l'occurrence, si on prend le cas des lotissements pavillonnaires, ce qu'on trouvait très intéressant avec François, c'est que typiquement, ce sont des gens qui nous disent « on ne veut pas d'histoire », mais quand ils nous racontent leur vie, en fait, très vite, il y a ici ou là des choses qui nous marquent, qu'ils soient font théâtre, qu'ils soient sont source de tension ou de grande joie et qui méritent d'être racontées. Sur ces non-lieux, sur ce que Télérama a appelé pendant un temps la France moche, je crois que c'est un des objectifs de la compagnie, c'est de déjouer tous ces stéréotypes-là en disant, en fait, toutes les vies, toutes les histoires d'hommes et de femmes ont une légitimité à être racontées, elles sont intéressantes par définition. Je pense que ce qui change, c'est l'écoute qu'on peut offrir à ces histoires-là, de à quel point on peut s'intéresser à elles, comprendre, être en empathie, etc., etc. Donc oui, je pense que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais qui ne sont pas réelles. Les lotissements pavillonnaires, par exemple, c'est des sociologues qui nous racontaient ça. Ce sont les endroits dans lesquels il y a le plus de faits divers. Donc c'est bien qu'il s'y passe des choses, il ne se passe pas rien, quoi.
Comment est-ce que vous avez travaillé la scénographie pour recréer l'espace géographique des lotissements et du périurbain? Parce que j'ai cru comprendre que la pièce, elle se déroule pas seulement dans le pavillon, mais qu'on voit aussi autour le lotissement, justement.
Alors, pour le coup, j'ai fait le choix de spatialiser le lotissement avec ses pièces, etc., mais en épurant le plus possible. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'aime beaucoup travailler comme matériau, mais c'est des marques au sol. Parce que je trouve qu'en fait ça fait appel davantage à l'imaginaire du spectateur et si le spectateur ou la spectatrice arrive vraiment à se projeter en voyant son lotissement, quand on dit lotissement pavillonnaire, je pense que chacun a à peu près à la même image et pourtant une image un peu différente. Donc l'idée c'était vraiment que chacun soit libre et chacune soit libre là-dessus. Et puis après, alors autant il y a des espaces qui sont différents, mais c'est aussi je crois la beauté et la puissance du théâtre, c'est qu'on arrive à moduler très vite les espaces d'un endroit à l'autre. On arrive à symboliser, sans trop tout dévoiler, mais on arrive à symboliser une voiture en mettant deux chaises l'une à côté de l'autre avec un éclairage spécial. On arrive à rendre une pièce, une chambre dans un EHPAD en changeant là aussi la lumière, en changeant très légèrement le mobilier. Et en fait, ça suffit aussi pour dire on change d'espace. Et puis après, il y a plein d'astuces, je pense, de scènes pour passer d'une chose à l'autre, pour faire avancer le temps, pour le figer, pour l'accélérer, etc., etc. C'est là la beauté, justement, d'arriver à faire une scénographie qui soit vivante, je l'espère assez collaborative avec les comédiens et comédiennes pour que tout le monde arrive à trouver sa place. Ouais.
Et il y a une légère inspiration du film Dogville de Lars von Trier, où pour ceux qui ont le film en tête, les décors, c'était de simples lignes blanches dessinées sur un plateau noir, et c'est ça qui délimitait les espaces et les habitations.
Oui, complètement. Oui, oui, ça vient de là. Enfin, en tout cas, il y a une inspiration très claire de Dogville. Mais parce que là aussi, c'est un auteur et dramaturge qui s'appelait Brecht, et qui lui a inventé ce qu'on appelle la distanciation, c'est-à-dire que il suffit au théâtre qu'on vous donne une chose sur une pancarte, par exemple en disant EHPAD, vous comprenez qu'on est à l'EHPAD, votre imaginaire fait le reste du travail. On n'a pas besoin d'avoir des choses très naturalistes en disant qu'il faut une chambre avec un lit médicalisé, avec un fauteuil de transfert, etc. etc. On dit EHPAD, le public fait le travail, et je trouve ça très juste en fait.
Et alors, vous dirigez la compagnie La Joie Errante, qui est implantée en Lozère depuis 2015. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez choisi de vous implanter ici et de travailler dans ces territoires ruraux.
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis lozérien, que je suis parti après faire des études ici ou là dans des conservatoires de théâtre. Mais au gré de mon parcours, j'ai pu travailler au Festival d'Avignon, j'ai pu bosser à Radio France pour des fictions, j'avais un agent à Paris, etc. Moi, ça m'a défini aussi en me disant que je voulais travailler pour ce qu'on appelle la décentralisation culturelle, en me disant que la culture dans les grandes villes, oui, oui, c'est super, hein, ça existe, c'est génial, mais je pense qu'on est sur des territoires où il y a déjà beaucoup de choses, évidemment, qui s'y passent, mais je voulais travailler pour un public qui pense que parfois le théâtre, ça n'est pas fait pour lui, pour un public qui pense ne pas avoir les codes, qui même des fois ne s'intéresse pas à la culture, et de se dire que je crois que mon travail, c'est de proposer, en tout cas de laisser la possibilité que ça existe. Et puis de fédérer des territoires ruraux en parlant d'eux, oui, pour moi ça avait du sens. Et après, l'autre raison, ça a été de me dire que dans ces campagnes-là, parce qu'on est aussi dans le Massif central en Lozère, mais dans les départements limitrophes, c'est la même chose, on parle souvent de, en tout cas, on m'a appris ça, moi, petit, et on nous le martelait régulièrement en disant qu'on est dans la diagonale du vide. Ce que je trouve quand même un peu ubuesque, dans la mesure où, encore une fois, il se passe énormément de choses. Et peut-être que je suis ainsi fait, mais je voulais arriver à déjouer tous ces stéréotypes-là et à rendre la part belle à des gens qu'on entend peu ou pas, et qui pourtant existent. Et je trouve qu'en Lozère, typiquement, on est le département le moins peuplé de France, c'est une chose, mais ça n'enlève rien à toutes les initiatives et les belles initiatives qui s'y déroulent.
Et vous avez déjà créé une pièce réellement inspirée par le territoire lozérien, parce que là, cette pièce-ci, La vie des autres, ce n'est pas spécialement le territoire lozérien, j'imagine les zones pavillonnaires, on est plus dans le pays urbain que dans l'ultra-ruralité comme c'est le cas en Lozère, mais est-ce que vous avez un projet ou peut-être à venir qui est très inspiré par le territoire lozérien ?
Alors, pour le coup, Vacarme était quand même beaucoup inspiré du territoire lozérien et du milieu paysan lozérien, mais pas que. Et puis après, ça me fascine, moi, de me dire que il y a des choses, je pense, qui sont uniques en Lozère. Et puis en fait, très rapidement, quand là, on est beaucoup en résidence, en Ariège, dans le Cantal, dans l'Aveyron, dans la Creuse, etc. etc. Donc, en fait, on retrouve très vite des thématiques ou en tout cas des trajectoires très identiques à celles qu'on peut parcourir en Lozère. Hein. On est loin d'être un cas unique. Donc, il y a eu Vacarme. Même si le périurbain, ce n'est pas ce qui caractérise le plus la Lozère, il y a ici ou là quand même des pavillons, des maisons pavillonnaires qui sortent du sol et on retrouve les mêmes thématiques que n'importe où sur le territoire. Mais pour le coup, oui, pour répondre à la question, en 2027, on est en train de travailler là avec François sur une création qui, pour l'instant, hein, c'est vraiment un titre provisoire, s'appelle « Loin de tout » et qui rendra la part belle aux campagnes avec deux thématiques fortes. La première, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a une mort des services publics qui est tout doucement programmé, avec des déserts médicaux de plus en plus présents, avec un hôpital public qui se casse la figure, avec des classes qui peuvent fermer ici ou là dans les écoles, et qu'on se rend compte que sur nos territoires ruraux, il y a des possibilités d'inventer de nouveaux modèles, et en tout cas d'arriver à se fédérer, je pense, de manière assez forte et rapide. Donc en vraie cohésion. Donc là, ça nous intéresse, et ça sera, je pense, en grande partie inspiré de la Lozère, ouais. Mais pas que, aussi de l'Ariège, du Cantal, de la Creuse, et aussi d'Aveyron.
Eh bien, avant cette nouvelle création, on peut en tout cas découvrir la vie des autres. Donc, je rappelle les dates, ce sera cette semaine, le 4 novembre au Quartz à Saint-Chély-d'Apché et le 7 novembre à la Jeunette Verte à Florac. Il y aura aussi d'autres dates à venir, on mettra toutes les infos sur la page internet de l'émission sur le site de Radio Bartas. Et on peut aussi continuer de voir la création précédente, Vacarme, Thomas Pouget.
Oui, tout à fait. On continue de tourner. Ben là, c'est le mois de novembre, il est bien chargé. Le 9, je crois qu'on est en Aveyron du côté de Conques, Marcillac. Ensuite, on joue avec la scène nationale de Busson, on joue avec la scène nationale de Foix. Il y a certainement des dates que j'oublie, mais on se pète sous l'eau. Des fois, on oublie un peu des choses. Et on est aussi le 6 novembre avec les scènes croisées de Lozère. On a travaillé un partenariat autour de conversations paysagères et on est avec l'Institut
agro
de Florac. Oui, c'est ça.
Voilà, pour une soirée avec, avec un géographe spécialiste du périurbain, c'est bien ça?
Exactement, exactement.
On essaiera...
venir aussi alimenter la création.
On essaiera aussi de le rencontrer pour continuer d'approfondir cette discussion sur le périurbain et sur l'habitat qui est passionnante. Merci beaucoup Thomas Pouget d'avoir passé
un
moment avec nous. Merci.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Merci.